essayer de vous asseoir rapidement afin que nous puissions recommencer et accueillir Dominique de Font-Réau, qui est la directrice du musée de la Croix, non loin d'ici. Mais auparavant, elle était conservateur au musée d'Orsay et responsable de la collection des photographies. Et bon, on a eu des échanges dans les dernières semaines sur cette photographie de Charles Nègre que je vous ai montrée la semaine dernière pour savoir dans quel sens il fallait la montrer, puisque dans les livres, on l'a trouvée dans tous les sens, aussi bien le négatif que le positif. Et donc, je voulais la montrer comme il fallait. Elle a donc beaucoup travaillé sur les rapports de la peinture et de la photographie, notamment chez Delacroix, dans la période qui nous intéresse, et elle a été commissaire de nombreuses expositions sur Courbet, sur Delacroix, sur le daguerréotype, mais aussi récemment sur sur le temps. L'exposition du Louvre, qui devait s'appeler « Une brève histoire du temps ». Une brève histoire de l'avenir. Oui, donc ce n'est pas celle du juif errant qui dure infiniment, c'est une histoire brève, et qui était au Louvre récemment. Je suis donc très heureux de l'accueillir et de lui donner la parole pour parler des chiffonniers photographiés, fantaisie pittoresque et réalité.
Merci beaucoup, Antoine Compagnon, et merci infiniment de votre invitation, hein, qui, à la fois, je dois dire, m'honore et m'effraie. J'espère que je vais être à la hauteur de cette invitation et m'a donné autour de ce sujet très passionnant, hein, dont le fil de vos cours montre toute la richesse, pour certainement de regarder un peu autrement des images très célèbres, hein, de la photographie du 19e siècle, parce que comme si, bien que comme nous l'évoquions, il y a finalement pas tant de photographies de chiffonniers au 19e siècle, du moins à la période que nous considérons. Elles ne sont pas très nombreuses, mais l'image de Nègre, notamment, a été une image qui a beaucoup compté de son temps et ensuite dans la critique photographique et plus généralement dans la critique artistique, et je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est ce sur quoi je voudrais revenir, hein, à la fois sur les commentaires riches, multiples, hein, qui ont pu être faits sur ces images, et puis aussi peut-être, bien sûr, revenir sur un sujet qui m'est cher, hein, qui est toujours ce rapport entre la réalité, sa reproduction, les subterfuges et les autres artifices, hein, que la photographie utilise et même, j'allais dire, promeut, hein, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et aussi peut-être mettre en perspective le fait que regarder les chiffonniers, le chiffonnier de Nègre, c'est peut-être aussi penser Nègre lui-même et plus généralement aussi certains photographes comme des chiffonniers de l'art, évoquant notamment les cours que vous avez pu faire au début de ces séances au Collège de France. Voilà donc très brièvement ce que je voudrais évoquer ici, en revenant certainement sur à la fois des images, mais aussi des textes que vous avez peut-être mentionnés la fois dernière, mais qui permettront aussi peut-être de faire le lien. Et si à l'instant vous avez fini sur Chronos et le vieillard, j'ai plutôt parlé du gamin de Paris finalement et de l'enfant, mais d'une certaine manière, c'est aussi replacer Paris dans une vivacité renouvelée, ce qui est aussi intéressant par rapport à Charles Nègre. Alors, je me suis permise, par rapport au titre que j'avais donné, de mettre des S partout, de mettre tout ça au pluriel, parce que finalement, après l'avoir préparé, je me suis dit qu'il y avait plus de pluriel que de singularité. Enfin bon, sur le fond, ça ne change quand même pas grand-chose, malgré tout. Cette image du petit chiffonnier de Nègre, hein, donc, qui est un papier salé, conservé celui-ci au musée d'Orsay, qui date de 1851, qui vient de la collection de la famille Nègre. Il y a aussi une autre image, pas tout à fait la même. Hein, celle-ci, c'est une photographie sur papier aussi, qui est conservée au Museum of Modern Art de New York. Et la provenance est la même dans les deux cas, c'est la famille de, de Joseph Nègre, donc, qui était un descendant de Charles Nègre et qui l'a vendu directement au musée d'Orsay ou vendu à André Jam, qui l'a donné ensuite au MoMA, mais la provenance est exactement la même. Tout ça pour dire aussi que Nègre n'a pas eu une diffusion qui était très importante et que ses œuvres ont été montrées de son temps, exposées, mais que, à la différence de d'autres œuvres photographiques de son temps, elles ne sont pas, elles n'ont pas été vendues si elles ont été si bien qu'elles étaient exposées et qu'elles aient été montrées. Donc, ça fait de Nègre un photographe rare, ou du moins aux épreuves rares, donc quelqu'un qui compte. Et ça fait aussi quelqu'un qui, bien qu'ayant pratiqué la photographie, je vais y revenir tout à l'heure brièvement, à partir de 1845-46 et jusqu'à la fin des années 1850, apparaît toujours comme un peintre. D'ailleurs, quand Delacroix le mentionne à la fin de la vie de Delacroix, il indique Charles Nègre, peintre, donc il demeure peintre dans les esprits de ses contemporains, et des images donc, qui sont montrées, qui sont exposées, qui sont commentées, mais qui, à la différence de d'autres photographies de contemporains et même d'amis hein, de Charles Nègre, comme par exemple Gustave Le Gray ou comme Roger Fenton, ne sont pas commercialisées. Il n'y a pas de ce point de vue-là avec Nègre, ce qui est intéressant. Donc toute la provenance, toutes les photographies que nous connaissons aujourd'hui de Nègre viennent par sa famille, ont été vendues par ses descendants dans les années 1970, 1980, 1990. Donc il n'y a pas finalement tellement longtemps, si on peut dire ainsi, pour toutes celles qui sont dans les collections publiques. Je crois que c'était important de le dire. Les images, elles sont donc célébrissimes, hein, les deux. Hein. Les deux fois, c'est des négatifs sur papier, donc ça, c'est important de le dire, hein, cette proximité de ce qu'on appelle à ce moment-là l'héliographie, hein, la société héliographique qui se fonde et dont Nègre est membre, et un organe fondamental qui est la revue de la Lumière. Hein, la Lumière donc, est une revue à la fois des beaux-arts, mais aussi de la photographie et de la littérature. Et la Lumière est l'organe de cette société héliographique. Et ce rapport au papier, ce rapport aussi à la composition est tout à fait intéressant. Et on verra dans les critiques combien, Francis Huet, Henri de Lacretel, Ernest Lacan célèbrent ces compositions et cette force de la composition créative et picturale de Nègre, il ne s'empêche pas non plus de parler de l'exactitude photographique et la qualité donnée à la photographie, alors qu'on est ici très loin de la clarté du daguerreotype qui avait effectivement mis en place, première esthétique photographique, cet enjeu de la clarté. Cette image, je y reviendrai bien sûr tout à l'heure, mais ce qui est très intéressant dans ces deux images, hein, c'est à la fois le fait qu'il y a les accessoires, et notamment la hotte dont vous avez parlé, et qui est vraiment la hotte toujours présente, une hotte ici, effectivement, qui, comme vous l'avez souligné, est presque plus grande que le chiffonnier lui-même. Il pourrait rentrer tout entier dans sa hotte sans trop de difficultés. Il y a aussi la borne, hein, il est adossé également à une borne, et on ne sait pas de quelle couleur est son pantalon, mais on va voir que Francis Huet estime effectivement qu'il est bariolé, donc on imagine aussi qu'il imagine un pantalon de couleur vive. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si dans celle-ci, il apparaît comme mélancolique, hein, cette renvoie aussi à la mélancolie qui est renforcée, mais ça, j'y reviendrai, sur le lieu où cette photographie est prise, hein, puisqu'on verra ensemble que toutes ces photographies sont prises à peu près au même lieu, mais j'y reviendrai. Donc il y a une forme de mélancolie comme ça de l'arrière-plan qui renvoie à Paris. On est bien dans une image de Paris, hein, sur laquelle on a bien insisté et dont le chiffonnier est un des personnages. Si, il y a une forme de mélancolie, hein, et on peut-être pas de misère, mais en tous les cas de repos et peut-être d'un certain accablement, on peut imaginer. Ici, notre petit chiffonnier est gouailleur et il a la mèche rebelle sous son béret et qui est presque une faluche d'ailleurs. Et donc, il y a quelque chose aussi d'assez bravache dans ce personnage. Donc, il est petit, il est jeune, il est presque complètement dominé par sa hotte, mais il a en même temps une véritable posture qui est ici soulignée par Charles Nègre. Et la critique de Francis Huet, donc que Francis Huet fait en 1851 à propos de cette image qui était conservée dans l'album de la Société héliographique, hein, donc album qui réunissait un certain nombre des épreuves des membres fondateurs de la Société héliographique, dont Charles Nègre, mais dont aussi Eugène Delacroix ou notre ami Jean Fleury, hein, qui est aussi membre de cette société holographique. C'est intéressant aussi de voir qu'il y avait aussi des critiques. Donc Francis Wey dit en parlant de cette photographie les choses suivantes. En se proposant un but tout opposé, celui de rendre un sujet sans se préoccuper de la ligne et par le seul effet des plans, à peu près comme procèdent les coloristes, M. Nègre a donné une preuve remarquable de la souplesse, de la diversité des ressources de la photographie. Son petit chiffonnier est à la fois solide et vaporeux comme un dessin de M. Bonvin. C'est la plus habile et la plus fugitive ébauche. Un pan de mur, un lointain estompé, deux blocs de pierre, sur l'un desquels le héros du sujet s'assied et dépose sa hotte, voilà toute la mise en scène. Elle n'a rien de compliqué. La tête, coiffée d'une méchante casquette, est insouciante, dédaigneuse, narquoise. La chemise de ce Diogène gamin est moelleusement ouatée d'un rayon de soleil. Le pantalon, largement indiqué, est bariolé, sans se demander comment il l'a vu, mais enfin, c'est pas grave, parce que la photographie refuse de reproduire la couleur, bariolé, crevassé, fendillé, rapiécé, à rendre jaloux Murillo, et l'auteur des Casseurs de pierre, et bien sûr, les Casseurs de pierre, c'est Gustave Courbet, ça va de soi, ici, sous la plume de Francis Wey. Le chiffonnier de M. Nègre n'est plus une photographie. C'est une composition pensée et voulue, exécutée avec toutes les qualités étrangères au daguerréotype, donc cette première esthétique photographique contre laquelle la société holographique s'était fondée, et ne revendiquant que celle-là, donc les qualités étrangères au daguerréotype. Rien de plus imprévu, de plus intéressant que ces épreuves où le mécanisme idéographique disparaît, où la nature, non contente de se peindre dans sa réalité matérielle, semble s'interpréter elle-même, recourir aux coquetteries de l'art et choisir les beaux côtés qu'il convient de montrer. Donc un très beau texte de Wey, non dénué d'utopie, hein, parce que alors là, on est bien incapable de savoir si le pantalon est effectivement bariolé, mais enfin ça, on va le croire sur parole, où il y a donc une forme de projection, où on le voit, il célèbre au début les qualités de la les qualités des plans, les qualités des coloristes, de la souplesse, mais où il finit quand même par le fait que, comme on est dans la photographie, c'est la nature elle-même qui se reproduit sur le négatif, donc quelque chose qui est toujours deux balancements de la critique photographique très intéressant, à la fois le choix de l'opérateur et du photographe, mais en même temps le fait que les images se reproduisent toutes seules dans la chambre obscure, hein, qui sont finalement deux points de vue toujours repris, donc il y a une forme aussi d'incohérence, mais surtout et évidemment les comparaisons picturales, c'est Bonvin, et c'est l'évocation de Murillo, hein, bien sûr du mendiant, ou de Gustave Courbet, que Francis Wey, franc-comtois comme notre ami Gustave, connaît bien. Et puis, Antoine Compagnon l'évoquait tout à l'heure, c'est de nouveau Diogène, hein, c'est-à-dire la chemise de ce Diogène gamin, écrivait, qui est présent. Et je rappelle juste, parce que, incité par Antoine Compagnon, je l'ai fait, je suis allée regarder l'article chiffonnier que vous avez tous lu, bien sûr, de Pierre Larousse. Et effectivement, Larousse dit effectivement que, je vous rappelle rapidement, il indique dans cet article chiffonnier qu'un étranger ou un campagnard qui rencontrerait un de ces industriels se demanderait sans doute quelle fonction sociale va accomplir ce personnage. Mais tous les Parisiens le connaissent de longue date. Ils savent que ce Diogène n'est autre qu'un chiffonnier. Mais comme le texte a déjà été mentionné, je ne reviendrai pas dessus. Donc, il y a un attendu ici, dans la photographie de Nègre, et que redouble la critique, de ce qu'est le chiffonnier, c'est-à-dire à la fois les enjeux du décor, Paris, ça c'est un point essentiel, et un Paris sur lequel on reviendra, des enjeux d'accessoires, la hotte, le pantalon, qu'on devine plus qu'on ne voit, malgré ce qu'en dit Wey, et aussi ce rapport à une figure qui est une figure de la philosophie, qui est donc un être à la fois qui est indigne de considération, sans force morale, nous dit aussi Larousse dans son article dictionnaire, mais en même temps doté de philosophie. Donc voilà, on voit un enfant ici qui est chargé de beaucoup d'interprétations possibles et de façon délibérée. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire tout de suite, et c'est vrai de toutes les photographies que je vous montrerai aujourd'hui, rien d'instantané dans tout cela, quoi que la critique ait pu dire à un moment ou à un autre. D'abord, pour des tas de raisons, l'instantanéité à sens strict, il faut attendre beaucoup plus longtemps, et par ailleurs, en termes de temps de pose, et par ailleurs, ces photographies-là sont admirablement composées au préalable, et donc elles sont posées autant au sens de la pose, mais elles sont aussi posées au sens de la lumière, posées au sens du décor, donc on n'est pas, Charles Nègre n'a pas arrêté comme ça très rapidement un petit chiffonnier qui passait dans la rue, il l'a bien sûr mis en scène. D'ailleurs, reste à penser que ces gamins photographiés ici aient bien été chiffonniers, ce dont je ne réponds absolument pas et j'en serais bien incapable. J'en doute fort en ce qui me concerne, mais évidemment, vous êtes libre de penser qu'ils l'étaient vraiment. Donc ça, c'est un point aussi très important, cette idée, finalement, que la photographie va apporter par rapport à cette image du chiffonnier et plus largement de ses petits métiers. C'est l'idée d'une réalité observée telle qu'elle est, alors qu'on est toujours dans une réalité transformée et une réalité recomposée, réimaginée, qui d'ailleurs ont fait, et j'y reviendrai tout à l'heure, désigner Charles Nègre comme l'inventeur de la photographie de genre à l'image de la peinture de genre, et ça me semble important aussi à considérer. D'ailleurs, c'est ce que dit Ernest Lacan, qui dit quelques années plus tard dans La Lumière en 1853 et qui écrit « Ainsi, nous avons eu bien souvent à répéter les éloges que tous ceux qui les connaissent donnent aux épreuves de M. Nègre. Ses ramoneurs, son chiffonnier, ses arlésiennes nous avaient paru être ce qu'on pouvait faire de mieux dans ce genre. » Donc, Nègre est vraiment célébré par rapport à cela. Alors, Charles Nègre, très rapidement, des éléments biographiques. Il n'est pas parisien. Je vous présente ici une photographie que je trouve très belle de sa famille, donc, qui a été prise à Grasse et qui est conservée au Canada. Donc, il naît à Grasse en 1820. Il est de la génération de Baudelaire, hein, donc un petit peu plus jeune, mais il est de la génération de Baudelaire, celle de Courbet aussi, hein, qui naît en 1819. Donc, il naît à Grasse en 1820. Il suit des cours de dessin là-bas. Son père est gantier avec une certaine fortune. D'ailleurs, on voit la famille qui a une certaine tenue bourgeoise ici représentée. Un Nègre est au centre. Il est un peu flou parce qu'il a dû venir rejoindre très vite, sans doute, pour être placé. Donc, il est un peu flou par rapport aux autres qui ont posé. Et il arrive à Paris en 1839. Donc, une belle date quand on se destine en partie à la photographie pour arriver, 1839, hein, puisque c'est l'année de l'annonce de l'invention de Daguerre. Et il entre dans l'atelier de Paul de la Roche, où il retrouve d'autres peintres qui sont ensuite, comme lui, devenus photographes, notamment Henri Le Sec, dont il est très proche, Gustave Le Gray, que j'évoquais tout à l'heure, Roger Fenton, par exemple, qui est le premier photographe du British Museum et qui est aussi le photographe de la reine Victoria. Nègre est admis à l'école des Beaux-Arts, hein, à la différence des autres. Hein, il est certainement le peintre d'un plus grand talent en avril 1841. Et après la fermeture de l'atelier de La Roche, c'est une histoire qu'on connaît, il rentre dans l'atelier de Drolling, puis dans celui d'Ingres. Donc il est vraiment au cœur de la création picturale de son temps et bien placé pour la création picturale de son temps. Il expose pour la première fois au Salon en 1843, puis de nouveau en 1847. Et en 1848, il reçoit un certain succès avec La mort de Saint-Paul et avec aussi une œuvre qui s'appelle Le suffrage universel et qui était liée aux représentations de la République. Et de façon assez intéressante, on le sait par Gautier parce qu'on ne connaît pas l'œuvre, il avait représenté la République sous les traits d'un homme. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant par rapport à toutes les représentations de la République qu'on connaît à ce moment-là. Et il s'initie à la photographie entre 1844 et 1847. Hein, il pratique le daguerréotype, donc première technique photographique sur métal, mais il pratique surtout la photographie sur papier et photographie sur papier qui arrive en France en 1847, détournée de la technique mise au point par William Henry Fox Talbot en Angleterre et que la société héliographique et les héliographistes vont donc développer. Mais pendant tout le temps, il demeure peintre, il continue à exposer au salon et il meurt dans un relatif anonymat, pardon, forcément inanimé d'ailleurs, mais dans un relatif anonymat, en 1880. Donc voilà, très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un provincial qui vient à Paris assez tôt, hein, à 19 ans. Il arrive d'ailleurs la même année que Gustave Courbet, qui arrive à 20 ans, là aussi provincial, mais qui va faire de Paris sa ville et dans sa représentation, ce que je trouve aussi très intéressant à considérer par rapport à l'image du chiffonnier comme image de Paris, ou même d'ailleurs comme Antoine Compagnon l'évoquait, le chiffonnier comme métaphore de Paris dans certains poèmes, notamment celui d'Hugo. Nègre est vraiment doté de beaucoup de qualités par la critique de son temps. Il est vu notamment par Ernest Lacan, un des grands critiques de la lumière, comme l'inventeur de la photographie de genre. Lacan écrit à propos des photographies de Nègre, il écrit « Un peintre de talent qui est en même temps un photographe de pur premier ordre, M. Charles Nègre, avait compris avec l'intelligence de l'artiste combien certaines scènes se prêteraient magnifiquement à la reproduction de l'objectif. Son chiffonnier et ses ramoneurs ont créé le genre photographique. » Donc ici, je vous montre une des images du ramoneur qui est conservée au musée Carnavalet, et on retrouve toujours ce pari dans l'arrière-plan de l'image, hein, qui est toujours, et qui, vous verrez, est toujours une toute petite partie de Paris, c'est-à-dire en fait le quai Bourbon et le quai qui est en face, donc Nègre peut voir de son atelier, ou ici, ces ramoneurs en marche, hein, qui sont conservés à Ottawa, qui sont aussi à peu près contemporains du chiffonnier. D'ailleurs, c'est peut-être le chiffonnier et les ramoneurs ont certainement posé pour les deux images, hein, sans doute les mêmes enfants qui ont posé. Et on retrouve aussi, de la même façon, les quais de Paris, et aussi dans le flou, l'arrière-plan de la ville, d'une ville qui est à la fois... La ville, on est ici en 1851-52, donc on est la ville d'avant les transformations haussmanniennes, hein, donc d'avant ce Paris éventré dont Hugo à distance et Baudelaire sur place se plaignaient, hein, mais donc on avance ces transformations haussmanniennes, et on est dans un Paris qui finalement est un Paris qui pourrait sembler immuable, mais qui par le mouvement des petits chiffonniers qui sont jeunes et qui sont en marche, est aussi toujours vivant. Il y a aussi un rapport comme ça très intéressant entre la mélancolie de quelque chose dont on sait que ça va sans doute disparaître et en même temps cette vivacité de l'enfance et que je trouve très intéressant dans la démarche de Charles Nègre. Ce qui est intéressant, c'est que la citation de Lacan que je vous ai lue montre combien le genre photographique, comme le genre pictural, comme la peinture de genre pictural, dont on sait qu'elle est, avec le paysage, le grand genre de la peinture du XIXe siècle, et d'ailleurs bouleversant en cela la hiérarchie des genres, bouleversant la peinture d'histoire. Le genre prend la place de la peinture d'histoire, un des grands enjeux de la peinture du XIXe siècle. Mais combien le genre pictural visait au sens de l'empathie du spectateur, cherchait à créer une émotion sur des sentiments communs au plus grand nombre, et donc se fondait sur des enjeux de rapport à la sentimentalité, et certainement aussi le fait de faire figurer des enfants renvoie aussi à cette forme de sentimentalité, à la narration, donc ici on a aussi cette idée du temps qui passe et de la marche, du lien avec la peinture évidemment, et la capacité à susciter des émotions simples, partagées, populaires, en se fondant sur un primat du sujet, immédiatement intelligible, et sur l'enjeu d'une certaine narration. D'ailleurs, Lacan achève son article en 1853 en disant « Nous engageons vivement M. Nègre, qui a créé la photographie de genre, à continuer ses travaux qui ont tant d'intérêt, puisqu'ils ouvrent un champ inépuisable à l'art et lui vaudront tant de succès. » Donc, il y a par rapport à Nègre, ce rapport effectivement à la peinture et à l'art qui est ici très présent et qu'on retrouve dans d'autres de ces images, toujours de ces photographies, toujours prises autour du 21 quai Bourbon, donc dans l'île Saint-Louis. Ici, c'est un joueur d'orgue de Barbarie sur lequel je vous lirai rapidement, pas prendre temps, une critique, mais qui montre là aussi toujours ce même rapport au petit métier de Paris, à Paris présent en arrière-plan, et aussi ce rapport à l'enfance, à une forme d'émotion qui est très présente dans la peinture de genre comme dans la photographie de genre, qui est cette enfance qui peut être une enfance misérable, et je vous montrerai des photographies rapidement, une photographie d'Oscar Regelender, qui est un des grands photographes victoriens contemporains de Nègre, mais aussi un enfant qui s'émerveille ici devant l'orgue de Barbarie ou qui a une certaine liberté, comme le chiffonnier ou les ramoneurs. La photographie de genre offrait aux photographes d'inventer le réel. Et ça, je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est que la peinture de genre a été vue et peut être vue comme une sorte de perversion de la peinture d'histoire, hein, d'une certaine manière, de ramener à l'anecdote et à la narration la grande peinture d'histoire donc au genre. Hein, c'est ce qui a été reproché, par exemple, au maître de Charles Nègre, Paul Delaroche, hein, dont on a pu penser qu'il abaissait la peinture d'histoire à la peinture de genre. Mais la photographie de genre, pour les photographes, c'est d'une certaine manière un adoublissement, parce que c'est d'une certaine manière recomposer le réel, le réinventer devant leur objectif par le biais à la fois des accessoires, mais aussi de la pose et de la composition. Donc le genre offrait aux photographes la possibilité de montrer leur talent grâce à une invention et d'aller au-delà d'une exactitude immédiate du réel pour composer une image. C'était donc d'une certaine manière, un genre photographique, le genre, justement, qui leur permettait de faire la démonstration de leur qualité d'invention et de création artistique. Et cette image-là est louée par Ernest Lacan, là aussi, en 1853, rappelant là aussi la force de l'image. Et il dit « Monsieur Nègre nous a prouvé que nous n'avions pas assez compté sur son talent et sur sa persévérance. Il vient en effet de nous montrer trois épreuves qui laissent de très loin en arrière celles que nous aimions tant. L'une, dont le négatif est sur papier, représente un joueur d'orgue. » Et il continue « Le parti pris des lumières et des ombres dans le mur contre lequel le bonhomme s'appuie et la voûte sombre qui s'enfonce derrière lui rappellent les dessins les plus vigoureux de Descamps, tandis que les traits finement reproduits de la tête intelligente, pensive et triste du vieillard, si tant est d'ailleurs que ce soit un vieillard, parce qu'il me semble assez jeune pour un vieillard, les détails minutieux de son vêtement de velours jaunâtre, là aussi je ne sais pas comment il sait que c'est jaunâtre, hein, parce que c'est comme pour le pantalon bariolé de notre petit chiffonnier, râpé et sordide, reporte aux sujets les plus soigneusement étudiés de Messonnier. Et il achève en disant « Il y a un contraste étrange entre la pose attentive, la physionomie émerveillée de ces enfants qui ont encore si peu vu et que tout étonne, et l'expression de lassitude et de découragement du vieux musicien ambulant qui a vu tant de choses, lui, et pour qui toute cette science n'a pu aboutir qu'à la mendicité. Ce n'est pas nous qui disons tout cela, donc le rapport à la narration, c'est l'épreuve de M. Nègre. Elle n'est pas seulement une froide reproduction de trois figures posées par le hasard, c'est un tableau raisonné avec ses intentions et ses enseignements. » Donc il y a là quelque chose dans les photographies de Nègre, que ce soit ici le joueur d'orgue ou que ce soit le chiffonnier ou les ramoneurs, qui renvoie à la narration et qui renvoie aussi à la création picturale dans ce qu'elle a le plus abouti. Donc là aussi, c'est une autre photographie du joueur d'orgue que je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer en comparaison des photographies que vous avez sans doute déjà vues, hein, d'un photographe qui lui aussi s'est formé comme peintre, qui est d'origine suédoise, qui travaille essentiellement en Angleterre, qui est Oscar Rejlander, donc ça s'écrit R-E-J-L-A-N-D-E-R, et donc qui est un des grands photographes de la photographie victorienne. Vous savez l'importance de la photographie sous la reine Victoria et le soutien que le prince Albert lui-même avait donné à la photographie et à la Royal Photographic Society. Et on voit aussi ce rapport à l'enfance. On voit d'ailleurs le fait que le petit mendiant qui est ici a pu être dénommé parfois rag picker, donc aussi chiffonnier, ce qui est très intéressant. Mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus... finalement, qui joue beaucoup plus sur une scène sentimentale, hein, avec même une sorte de mélo, avec une forme de misérabilisme, hein, si on peut dire, hein, de cet enfant qui a sa tête dans ses mains et qui pleure. Là aussi, hein, tout ça est composé, hein, vous imaginez bien, hein, complètement recomposé. Mais qui est très différent de l'aspect un peu bravache qu'ont les enfants du petit peuple de Paris chez Nègre. On voit que ce n'est pas du tout la même dimension. Il y a un écho de Rejlander, bien sûr, avec les romans de Dickens, mais d'une certaine manière, on pense que Oliver Twist, finalement, est plutôt le petit chiffonnier de Nègre, si on peut dire, qu'il est ici le mendiant de Rejlander. Enfin, c'est ce que voilà, je me permettrai ici de dire à titre relativement personnel. Donc, il y a chez Nègre... cet enjeu de cette représentation du chiffonnier et des autres métiers de Paris, hein, pour placer tout ça à Paris, avec un sens très important du détail, hein, de l'accessoire, du vêtement, et d'une certaine manière, c'est par l'intermédiaire de ces costumes, de ces vêtements, que ces personnages deviennent soit un chiffonnier, soit un petit chaffonnier, soit un petit ramoneur, soit un joueur d'orgue, soit ici un Pifferari, ou un marchand de coco, comme on le voit dans l'image qui est juste derrière moi. C'est-à-dire que c'est finalement le rapport au costume et à l'accessoire qui va distinguer la scène, et c'est par ce registre-là que l'on peut distinguer une scène bretonne d'une scène dite italienne ou orientale, ou les différents petits métiers de Paris. Alors la figure du Pifferari, vous le savez, ça nous emmènerait trop loin, mais il y aurait certainement un cours à faire ici sur la figure du Pifferari en tant que telle, en peinture et aussi dans l'art. Hein. C'est aussi amener un peu de Rome à Paris. Hein. Et les Pifferari étaient des Pifferari que les artistes avaient rencontrés dans leur voyage à Rome dans les années 1820-1830 et qui sont ensuite devenus une figure parisienne par l'intermédiaire notamment de la photographie et de la peinture. Et Nègre les représente à plusieurs reprises. Ici, notamment, c'est une image qu'est la Société française de photographie dans la cour du 21 Quai Bourbon. Et on voit bien ce rapport à l'accessoire et à l'immédiat qui finalement désigne aussi les personnes représentées. Et ce choix du costume était ce qui distinguait aussi le bon peintre de genre comme le bon photographe de genre, et peintre et photographe possédaient ainsi souvent une importante collection de costumes et d'accessoires dont pouvaient se revertir leurs modèles. Et j'ai fait la comparaison avec toujours une citation issue du dictionnaire de Pierre Larousse qui dit, en parlant du chiffonnier Liard, que finalement un acteur vêtu de haillons et portant sur le dos la haute d'un chiffonnier ne diffère en rien de l'industriel d'aspect peu récréatif qui, la nuit, pique des chiffons au coin des bornes à la lueur rougeâtre de sa lanterne. Il n'intéresse qu'à la condition de s'animer, et si des temps inattendus chauffent ses loques, son nez vineux, sa barbe inculte et ses sourcils en broussaille, si son œil jette un éclair de philosophie, si sa lèvre se plisse sarcastique et mystérieuse, si enfin sa personne prend cette allure puissante, sauvage et rablaisienne que Traviès a su donner à son chiffonnier Liard. Et on est là aussi vraiment dans cette exaltation que Veyf donnait tout à l'heure, ou aussi Lacan, aux figures de Nègre, c'est-à-dire finalement qui tiennent, ici c'est juste une image de Traviès que je voulais vous montrer, mais des figures de Nègre qui tiennent finalement à la force de l'utilisation du costume, peu importe ce qu'ils sont vraiment. Ce qui est important, c'est comment la photographie et le photographe peut les transformer et les présenter. Il y a donc chez Nègre un sens du costume, un sens du décor. Il y a aussi un sens très habile de la mise en scène. Hein. Et ici, c'est un très beau portrait de groupe qui représente en 1851 ou 1852 des amis de Nègre toujours en bas du quai Bourbon. Donc, c'est une photographie qui est conservée au Canada, donc avec un sens de la mise en scène, un sens des ombres aussi très subtil, hein, et de la lumière que l'on voit ici. Avec ici la représentation du sculpteur Auguste Préaux, qui était un ami de Charles Nègre, et avec un sens là aussi de la pose et de la mise en scène. Mais aussi, peut-être encore, ici avec Henri Le Sec, pardon, et une petite fille avec le même orgue de joueur de barbarie. Donc là, une mise en scène, ici Le Sec avec son grand haut de forme qui est ici très bien souligné. Ou peut-être plus encore pour cette photographie célébrissime de Charles Nègre, le Strige, où on retrouve la figure de Henri Le Sec, hein, sur la cathédrale, à côté donc de ce Strige inventé par Viollet-le-Duc. D'ailleurs, une des épreuves que Nègre avait réalisées de ce Strige avait été dédicacé à Viollet-le-Duc. Donc ça, c'est très intéressant aussi de souligner ce rapprochement. Et on voit aussi de nouveau Paris dans le lointain, un Paris ici figuré par Notre-Dame comme un Paris médiéval, même si la restauration de Viollet-le-Duc, on le sait, a pas mal trahi l'architecture initiale du XIIIe siècle, mais c'est aussi un pari finalement qui n'est pas du tout un pari moderne ou un pari d'Haussmann, mais plutôt un pari qui reste vivant et permanent. Donc on voit chez Nègre un vrai sens de la mise en scène, un vrai sens du costume, un vrai sens aussi du déguisement, avec cet autoportrait que j'aime bien, en costume oriental, pris sur la porte, devant la porte de son atelier, donc au 21 quai Bourbon. Donc tout ça pour vous montrer l'invention permanente que sont ces photographies et qu'il ne faut pas prendre de façon trop littérale. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit un autre critique de la lumière, qui est aussi critique de peinture, Henri de Lacretelle, le 28 février 1852, où il écrit « Nègre passe du rêve à la réalité, qu'il sait aussi rendre poétique. Ses albums photographiques sont pleins de scènes d'intérieur qui sont regroupées par la fantaisie la plus bohémienne. » J'ai bien aimé entendre tout à l'heure Antoine Compagnon parler des gypsies, donc, sous la plume des journalistes écossais, donc ici la fantaisie la plus bohémienne. Il a saisi avec une hardiesse incroyable une scène de marché qui avait lieu sur le quai en face du sien. Les portefaix marchent, les marchandes élèvent les bras, la volaille frissonne sous la main qu'il a saisie. Ils ont tous laissé leur image exacte dans la chambre obscure de M. Nègre, plus raffinement que leur ombre sur le pavé. Donc il y a ce rapport entre réalité et poésie, et toujours aussi entre la supposée exactitude de la photographie et avec en fait le travail de Charles Nègre. Ici, c'est rapidement pour vous les montrer les Arlésiennes qu'on évoquait tout à l'heure, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est ces scènes de marché dont parle Henri de Lacretelle et qui sont, pardon, du coup, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin, je reviendrai, mais qui dont parle Henri de Lacretelle et qui sont des études pour sa peinture et la manière dont il les reproduit. Mais on voit que dans les deux cas, on n'est pas du tout dans l'exactitude ni dans la réalité qui se forme toute seule, mais au contraire dans quelque chose qui est bien retravaillé. Et on voit aussi que la photographie pour Nègre sont aussi des études pour sa peinture. Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, tout se passe effectivement dans ce Paris de l'île Saint-Louis, l'atelier dans lequel il s'installe en 1849, une date intéressante, 1849, pour s'installer au 21 quai Bourbon. Donc, j'ai une carte, malheureusement, c'est horrible parce que c'est une carte de notre temps, enfin, c'est pas grave, on voit bien, juste pour vous rappeler, mais c'est juste à côté d'ici, combien le quai Bourbon est dans la prolongation, ou plutôt le quai d'Anjou est dans la prolongation du quai Bourbon. C'est un Paris à la fois populaire, des petits métiers, des marchés, des bords de Seine, mais c'est aussi un pari artistique et littéraire, avec au 15 quai Bourbon, Geoffroy de Chaume, qui était le sculpteur de Viollet-le-Duc, au 9 quai d'Anjou, Daumier, Ernest Meissonnier, et bien sûr, au 17 quai d'Anjou, l'hôtel Pimodan, donc aussi ce rapport avec toute une vie à la fois artistique, littéraire, et aussi des petits métiers de Paris qui permettent de penser que Nègre a été en lien de façon tout à fait raisonnable avec tous ces artistes. Il connaissait de façon certaine, par exemple, Eugène Delacroix ou Théophile Gautier. Rien n'est dit de ses liens avec Baudelaire, mais c'est vrai qu'il appartient à cet univers-là. Il connaissait aussi, bien sûr, aussi Daumier, qui était son voisin et que j'ai voulu ici évoquer avec une figure du chiffonnier que vous avez sans doute peut-être déjà montré. Donc le rapport à la peinture est très intéressant. Il associe, Nègre associe imaginaire pictural et réalisme et des scènes recomposées. Finalement, il met en œuvre des études pour sa peinture, des études d'après nature pour sa peinture. Je vous remontre ce que je viens de vous montrer. Mais il a aussi une ambition de se colter notamment à la reproduction de la peinture. Et très tôt, il réalise ici, c'est un daguerréotype, donc cette première technique de la photographie qui est une photographie beaucoup plus lisible, qui fonctionne sur la ligne à la différence de la photographie sur papier qui fonctionne plutôt sur masse. Et c'est un tableau d'Aurès Vernet, La chasse au sanglier, un daguerréotype qui a été récemment retrouvé sur le marché parisien l'année dernière, qui est donc une très belle reproduction par Nègre d'un tableau de Vernet. Il copie aussi les massacres de Kyo. Les liens entre Delacroix et Nègre sont réels. Nègre est mentionné dans le journal comme peintre, je vous le disais tout à l'heure, avec un essai de reproduction héliographique le 6 juillet 1860. Il est mentionné aussi dans l'inventaire après décès, puisque Delacroix avait destiné une gravure héliographique pour Charles Nègre à sa mort, donc pour imaginer qu'il y avait une vraie reconnaissance de l'artiste par Eugène Delacroix. Alors, pour conclure cette intervention, je voulais peut-être se poser la question finalement de Charles Nègre, chiffonnier de l'art, hein, avec cette fantaisie la plus bohémienne que citait Henri de la Créteil, avec le fait que finalement, ces chiffonniers, son petit chiffonnier, comme ses ramoneurs, viennent aussi d'images de la peinture de genre. Hein, et ici, évidemment, on peut évoquer, avec ce rapport à Paris, hein, une scène de Paris de Félix-Auguste Genron, hein, que Nègre a connue ensuite en 1848, donc une scène de Paris qui date de 1833 et qui est conservée à Chartres, hein, où on retrouve effectivement les quais de Paris représentés comme ça dans le lointain, comme Nègre dans son image, hein, dans une de ses ramoneurs, mais aussi une autre œuvre de Genron en 1848, qui est un dessin conservé au département des arts graphiques du Louvre, avec les insurgés de 1848, où il y a aussi la figure d'un enfant, hein, qui est ici, dont la tête disparaît sous son casque panaché, mais qui a le regard aussi bien lisible, hein, comme le petit chiffonnier de Nègre, hein, donc ce rapport-là. Mais aussi, et alors vous allez dire que je distors pour amener tout à l'artiste dont le musée que je dirige abrite l'atelier, mais pas seulement quand même, hein, ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais dire, mais aussi à ce gamin qui est représenté dans La Liberté ou dans le tableau des barricades, hein, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait à ce moment-là, et qui ressort, vous savez que le tableau avait été acheté par l'État en 1831, il est réexposé brièvement en 1849, l'année même où Nègre s'installe quai Bourbon, et l'année où il commence à penser ses photographies. Donc je trouve quand même que là, voilà, je distors peut-être un tout petit peu, mais peut-être pas complètement, et qu'il est possible de penser que le regard bravache de ses chiffonniers ou de ses ramoneurs vienne aussi de ce côté de vivacité de l'enfant du futur Gavroche qui est présenté dans La Liberté. Le tableau s'appelait « Scène des barricades », hein, à ce moment-là, et d'ailleurs quand Delacroix le mentionne, il dit « Je voudrais que mon tableau des barricades ressorte », hein, parce que c'était sa grande histoire, parce que le tableau est resté finalement en réserve un grand nombre d'années, puis rendu à Delacroix avant d'être réexposé de façon définitive au Louvre dans les années 1870. Et on y retrouve bien sûr la figure du gamin de Paris en marche, hein, comme dans les ramoneurs, avec ce regard bravache qu'on a chez les petits chiffonniers, mais aussi cet arrière-plan de Paris. Alors ici, c'est Notre-Dame et l'île de la Cité, mais on est tout près des arrière-plans que montrait Nègre. Et il est raisonnable de penser que pour tous ces... Je ne vous remontrerai pas les photographies que je viens de vous montrer, mais tous ces arrière-plans qui sont comme ça un peu brumeux, joints avec un effet de flou, sont aussi en partie inspirés par Eugène Delacroix. Donc c'est en tous les cas quelque chose qui ne m'était jamais complètement venu à l'esprit avant de réfléchir pour cette communication, mais qui, en revoyant les lieux et en revoyant la manière dont les images sont composées et aussi la coïncidence des installations, peut au moins être pensée et considérée. Et puis, plutôt pour vous montrer par différence ce que peut être une photographie plus documentaire, je voudrais vous présenter, vraiment pour vous montrer, mais très vite, juste en faisant défiler des images, des photographies de chiffonniers qui sortent de l'ambitus chronologique qui a été fixé par ce cours, hein, donc au-delà de 1870, mais qui montre quelque chose qui va, d'une certaine manière, vers le documentaire et vers le reportage, et qui sont notamment ce tableau, alors qui est reproduit par Théodore Druet, et qui est un tableau qui a été présenté au Salon de 1910, mais surtout les photographies de Paul Géniaud, qui naît en 1873 et qui meurt après 1930, qui photographie les petits métiers de Paris, et notamment les chiffonniers. Donc un certain nombre de photographies que je voulais vous montrer, qui sont conservées au musée d'Orsay. Donc Géniaud s'était fait toute une spécialité des métiers de Paris, ici c'est les bouchers des Halles, et il représente aussi toute l'industrie du chiffon et des ordures avec l'église de Saint-Ouen. Donc il n'y avait plus d'octroi à ce moment-là, mais on était sur ce qu'on appelait la zone, hein, donc au-delà des fortifications. Donc je voulais vous montrer, même si on est en dehors, mais pour vous montrer la différence, hein, par rapport au travail très pictural, hein, que Nègre a pu mener. Donc un certain nombre de photographies que je vous ai apportées qui sont toutes conservées au musée d'Orsay, donc vous pouvez regarder au musée d'Orsay, ou bien sûr les photographies célébrissimes. Quand on parle de chiffonnier en photographie, je crois qu'on a deux évocations, Charles Nègre en 1851, Eugène Adjé en 1912, je crois que c'est à peu près les deux grandes images. Et ici, c'est la cité Trébert, donc photographiée pour le Paris pittoresque d'Adjé, comme modèle documentaire pour la peinture, avec des photographies qui sont celles-ci au musée d'Orsay et les deux suivantes de mémoire à la Bibliothèque nationale de France. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et puis, pour conclure, deux cadeaux, si je peux me permettre de faire un cadeau, mais c'est bien présomptueux de ma part. Cette photographie de Marianne Breslauer, qui est une photographe d'origine allemande, qui est arrivée à Paris, invitée en lien avec Man Ray à la fin des années 1920, donc elle avait une vingtaine d'années, et qui photographie cette chiffonnière en 1929, avec un effet très pictural, donc on est complètement en dehors de notre échelle chronologique, mais avec un effet très pictural, et de nouveau, en retrouvant les quais de Paris, donc il y a certainement là aussi une évocation qui est une évocation délibérément pictorialiste, qui renvoie aussi à ce que Nègre a voulu faire, donc simplement pour montrer que la présence et la permanence et la trace aussi donnée par ces photographies de Nègre. Et puis, une citation de la Lumière qui n'a rien à voir avec la photographie, mais que j'ai trouvé jolie, et je ne suis pas sûre que vous l'ayez vue, et j'en vous en donnerai bien sûr les références, qui s'appelle « Les chiffonnières célestes », qui est parue dans la Lumière en 1858, et qui parle des comètes. Et je trouvais que ça nous permettait de, finalement, aller de Paris jusqu'au ciel, mais comme Paris est toujours un ciel renouvelé, c'est pas Baudelaire, ne nous dirait pas différemment, je pense que c'est intéressant. Et à propos des comètes, l'auteur, qui est anonyme, mais qui est sans doute en fait le directeur de la Lumière à ce moment-là, c'est-à-dire Arsène Godin, écrit « Nous les qualifierons de chiffonnières du ciel. En effet, les comètes travaillent à leur profit personnel, grossissant leurs petites pelotes de toutes les ordures qu'elles ramassent, poussières, débris et détritus de monde, dont elles font pâture, ainsi que sur notre terre, tout être nouveau se nourrit d'êtres détruits qu'il absorbe et dont il assimile la substance. En sorte que ces chiffonnières célestes, dont la queue peut à la rigueur simuler la hotte, seraient tout bonnement de pauvres astres prolétaires en train de ramasser une fortune. » Donc une métaphore du chiffonnier qui nous élève sur les cieux. Voilà. Merci infiniment de votre écoute.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a eu beaucoup de Charles Nègre, puisque j'en avais parlé la semaine dernière. Je me rendais pas compte qu'il y avait, au fond, pas beaucoup d'autres photographies de chiffonniers. Il y en a beaucoup, évidemment, autour d'Adjé, au début du XXe siècle, mais peut-être qu'on peut revoir celle de... est-ce qu'on peut en revoir une que j'aimerais bien commenter un instant d'une... Il faudrait éteindre de nouveau la lumière, oui. Celle où on voyait à la fois le petit chiffonnier et la poubelle.
Ah oui, c'est génial.
Voilà, celle-ci, qui nous montre bien...
1920.
Elle nous montre bien la fin, puisqu'on a le modèle de la poubelle rectangulaire, enfin parallépipédique, des débuts qu'on avait vu dans un dessin de Villette, et la perplexité du chiffonnier devant la poubelle, puisque c'est un autre monde que celui qui est introduit là. Et petit chiffonnier, moi je le vois dans sa perplexité. Mais ça nous montre oui, qu'on est entré dans une autre période. Alors, moi, il y a encore une photographie de chiffonnier que je cherche parce que je crois qu'il y en avait. Il y avait une photographie de chiffonnier au salon de 1859 de Michel de Sboromirski, mais je l'ai pas vue. Vous l'avez pas vue? Je ne sais pas si on peut la voir, mais c'est parce que c'est le salon dont Baudelaire parle à propos de la photographie, mais sans avoir été visité la section de la photographie, me semble-t-il. Mais en 59. Il y avait un chiffonnier au salon de la photographie, au premier salon de la photographie. Donc,
Le premier qui est accepté à proximité du salon de la, du salon de la peinture, parce que c'est la, en fait, c'est la quatrième exposition de la Société française de photographie, puisque la première a lieu en 1855.
C'est la première qui coïncide avec le salon des Beaux-Arts, mais auquel on pénétrait, j'en avais parlé il y a quelques années, par une autre porte. On ne pouvait pas passer directement du salon de la peinture au salon de la photographie, mais là, il y avait un chiffonnier. Et donc, bon, il faudrait... Il faut le chercher parce que c'est un peu comme le chiffonnier de Nègre, c'est une sorte de première quoi, de visite de la chiffonnerie. Alors, la réflexion sur la scène des barricades, est-ce qu'on peut passer du petit chiffonnier de Nègre au...
En y réfléchissant, parce que c'est vrai que je voulais aussi mettre en perspective ces images de Nègre, ça me semblait important. Je pense qu'il y a certainement, pour Nègre, provincial, mais qui s'intègre à Paris et qui s'installe dans un quartier où il veut s'intégrer à la fois au cœur de Paris, mais en même temps aussi avec la ville artistique et littéraire, je pense qu'il y a cette idée d'un Paris en mouvement, d'un Paris vainqueur, d'un Paris à la fois immuable, et c'est, le Strige est une photographie tellement étonnante et tellement complexe à réaliser, parce qu'on on a l'habitude de le voir, mais elle est tellement complexe à réaliser avec les possibilités de l'époque en termes de, à la fois de hauteur, de lumière. Il y a cette idée aussi d'un Paris médiéval, donc éternel d'une certaine manière, et aussi parisien, parce que c'est un Paris médiéval, pas un Paris antique. Je pense certainement qu'il est sensible à cette métaphore de cette ville en mouvement. Je n'ai pas du tout, c'est bien pour ça d'ailleurs que je ne vous ai pas montré le tableau dans son ensemble, je n'ai pas montré l'allégorie de la liberté, mais je pense que dans cet arrière-plan, ça m'a beaucoup frappé en travaillant pour aujourd'hui, combien cet arrière-plan est un arrière-plan dans son traitement qui est très proche de ce que Nègre a choisi ensuite. Et quand j'ai revérifié précisément, évidemment, quand j'ai vu que la liberté a été montrée de façon courte, 6 mois en 1849, là, je me suis dit qu'on pouvait quand même raisonnablement se dire qu'il l'avait revue. Il n'a bien sûr pas pu la voir en 1831, il n'était pas à Paris, il était beaucoup trop jeune, mais en 1849, il l'a sûrement vue. C'est difficile d'imaginer qu'il ne l'ait pas fait. Donc, du coup, on peut se permettre... ça ne me semble pas inconsidéré. Et ça ouvre d'ailleurs quelque chose d'intéressant, parce que le lien Nègre de la Croix est fort, pour le coup. Et donc, ça, avec un de la Croix qui a l'attitude, par rapport à la photographie, qui est une attitude baudelairienne, ou si je peux me permettre, sans vouloir choquer les baudelairiens ici, c'est plutôt Baudelaire qui a une attitude de la Crucienne par rapport à la photographie. C'est-à-dire, ils sont intéressés tous les deux, mais ils se défient de l'exactitude, ils se défient de cette idée, surtout que la photographie devienne le nouveau paradigme de l'art. Ils ne veulent pas ça. Mais par contre, l'un comme l'autre, on le sait bien, et ça nous en entraînerait trop loin, mais ils se sont intéressés à la photographie de près.
Alors, dans un des cours, j'avais montré une autre photographie de Nègre, qui était le cheval étendu sur le quai de Bourbon, à propos du cheval blessé ou mort. Et cette photographie-là, a l'air moins posée, puisque c'est une scène vue. Toutes celles que vous avez montrées sont des photographies posées. Celle-là... Parce qu'il y a pas mal de personnages qui sont...
Elle est de toute façon observée et choisie, c'est-à-dire que les images que j'ai montrées à l'instant, toutes ont été choisies, c'est-à-dire qu'on ne voit que celles que Nègre a bien voulu nous léguer, et ce sont des images rares, donc elles sont d'une certaine manière toujours choisies, très très souvent en amont et en aval, et toujours en aval de toute façon. Oui. La photographie est toujours choisie, si on la voit aujourd'hui, c'est qu'elle a demeuré, a fortiori pour un Charles Nègre qui a exposé ses photographies aux différentes expositions, et qui a donc a choisi très précisément ses épreuves. Ça, je crois qu'il y a vraiment... C'est toute la complexité quand on parle de photographie aujourd'hui, c'est qu'on est à l'antipode de la photographie immédiate qu'on peut avoir. C'est vraiment... On est sur quelque chose de fondamentalement différent. D'où le rapport à la peinture, d'ailleurs. D'ailleurs, que pour Nègre, on ne parle finalement que... tous les critiques ne parlent que de tableaux, de dessins, des masses, je ne l'ai pas cité, mais aussi de théorie des sacrifices. Enfin, on ne parle vraiment que de peinture dans cet élément.
Oui, c'était la semaine dernière l'expression dans un de ses articles de Francis V sur les photographies de Le Gray, dessins sur papier. Ce sont donc des dessins.
Ouais. Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup, et que je n'ai pas suffisamment souligné peut-être, c'est le rapport à l'absence de couleur, mais qui est en même temps souligné. C'est-à-dire que Vais parle du pantalon bariolé alors qu'il n'a pas pu le voir, et Ernest Lacan parle de la tenue jaunâtre alors qu'il ne la voit pas plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est que la photographie à qui on donne, pour parler comme Baudelaire, toutes les qualités supposées d'exactitude, en fait, faillit à une exactitude de façon très forte, mais finalement personne ne s'en plaint, qui est celle de la couleur. C'est-à-dire que ce sur quoi les photographes ont travaillé, c'est la réduction des temps de pose et reproduire le plus possible l'apparence des choses et des êtres vivants. Oui. Et ça, tout de suite, c'est ce sur quoi ils travaillent. Mais la couleur, il faut attendre 1904 et l'autochrome des frères Lumière, et donc 1907 pour attendre le brevet, pour que la couleur existe, et encore à ce moment-là, elle n'existe qu'en couleur de projection. Donc on s'accommode très bien du noir et blanc, et c'est très amusant de voir que des grands critiques très inspirés, comme Lacretelle, Vais, Lacan, finalement, ces couleurs, ils les donnent. Avec une sorte de... Voilà, elles sont là. Et ça, c'est quelque chose dans l'imaginaire photographique qui me semble encore à retravailler. Comment, dans un lien avec la peinture, on a favorisé la ligne et comment, finalement, on s'est bien accommodé de l'absence de couleurs, y compris pour la représentation picturale, pour la reproduction picturale.
Oui, c'est-à-dire que Francis Vais dit que dans cet article que Nègre procède en coloriste. C'est un coloriste, mais en effet, c'est un coloriste dû simplement en raison de l'absence de ligne.
Voilà.
Mais non, pas de présence
mais
de la
pas
couleur.
Pas de présence de la couleur.
C'est l'absence de ligne qui définit le coloriste. Oui. J'avais montré la semaine dernière des dessins de François Bonvin, parce qu'il compare à François Bonvin. Et les dessins de François Bonvin ont l'air de photographie.
Alors qu'elles sont antérieures.
Comment ?
Alors qu'ils sont pour beaucoup antérieures, souvent, pour Charles Nègre. Il y en a beaucoup des années 1840.
Des dessins de 1947, à peu près.
Voilà, c'est ça. Un petit peu antérieures.
Dans les mêmes années, qui ont l'air de photographie.
Mais ce qui est intéressant, mais je n'ai pas voulu vous le citer parce que je ne voulais pas être trop longue, mais je l'ai ici, je peux tout à fait le citer, c'est que Nègre écrit dans La Lumière un article sur une collection, la collection du baron de Mecklembourg, qui est vendue en 1854 à Paris, et qui rassemble une trentaine de toiles de l'art flamand et de l'art hollandais, qui, vous le savez, on redécouvrait à ce moment-là. Le moment où on redécouvrait la peinture hollandaise et la peinture flamande. On sait le rôle important joué par certains critiques comme Thoré, notamment dans cette redécouverte. Et je pense aussi que la photographie, et notamment la photographie sur papier, donc l'héliographie, ce qu'on appelle soit le calotype, soit l'héliographie, a bénéficié, ou vice-versa, il y a eu la concomitance entre la reconnaissance nouvelle de la peinture hollandaise et la peinture flamande du XVIIe siècle et la mise au point de la photographie sur papier, a joué dans les deux sens, pour les deux, anoblissement de la photographie, mais aussi fait que la photographie a pu s'accommoder du fait des œuvres qui n'étaient souvent pas forcément très colorées, des œuvres flamandes et hollandaises, donc de l'absence de couleur de la photographie. Et ce n'est pas rien que Nègre lui-même signe un article sur la peinture hollandaise et sur la peinture flamande en 1854. Là, il y a vraiment quelque chose qui montre aussi, et c'est beaucoup un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est combien l'intérêt, ce n'est pas forcément de savoir si la peinture a copié la photographie ou vice-versa, ça, ce n'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'apparition de la photographie a pu entrer en résonance avec des enjeux de la peinture et a pu aussi petit à petit les modifier, c'est ça qui est intéressant. Parce que sinon, la ressemblance immédiate, une fois qu'on a dit que ça copie cela, on n'a pas beaucoup de... ça ne va pas nous amener très loin. Mais ça, c'est très, très intéressant. Et dans le rapport au chiffonnier comme métaphore de l'art, il y a un côté, on aurait pu dire, je ne me suis pas permise d'aller jusque-là, mais je l'ai quand même pensé, c'est que la photographie aussi joue sur le chiffon, d'abord parce qu'elle est sur papier, c'est l'importance du papier, et puis aussi parce que elle joue sur la trace que laisse la peinture aussi, donc elle est dans ce rapport-là, donc c'est aussi très intéressant. Et je pense que Nègre, qui, j'espère vous l'avoir bien montré avec les photographies et les images que je vous avais apportées, Nègre qui a un sens aigu de la mise en scène et du décor et aussi des costumes, a certainement ça à l'esprit, au moins en partie.
Ce qui est intéressant, comme vous l'avez souligné aussi, que presque toutes les photographies de Charles Nègre sont devant sa maison,
ouais, tout le long.
Ou dans la cour.
Ouais, tout,
dans
ouais.
La cour du...
Tout, pratiquement.
Le jour
tout.
Je suis entré dans la cour,
ouais.
qui n'a pas beaucoup changé.
Non, qui n'a pas beaucoup changé, je l'ai fait aussi.
On voit les ateliers et ouais. les différents côtés. Ouais. Donc, et si vous passez devant, entrez ouais. 21
Quai Bourbon. Et tout est tout. Il ne prend. Voilà,
vous voyez le décor de ces photographies.
Oui, tout à fait. Et donc on voit bien qu'il les a fait venir là, évidemment. Ils ne pouvaient pas tous passer 21 Quai Bourbon. C'est relativement peu envisageable, en tout cas, par rapport à ça.
Vous avez pu remarquer aussi, il y a quelque chose d'étrange dans la photo d'Auguste Préau.
Oui.
Très étrange. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui était si étrange? C'est qu'en fait, il était pratiquement un nain.
Oui.
Et on le voit, enfin, vous retrouverez la photo, il n'arrive même pas à la hauteur des fenêtres de la maison.
Mais ça, c'est tout le rapport aussi à l'enjeu du rapport entre portrait et photographie de genre, hein, et sur lequel Nadar, par exemple, a excellé, hein, non seulement à photographier Baudelaire, mais aussi à photographier de façon particulière. Et c'est l'artifice qu'il avait trouvé pour Berlioz, qui lui aussi était très petit, de lui donner ce grand manteau. Parce que quand il a vu arriver Berlioz, tout petit, tout maigrichon, il s'est dit non, mais là, c'est pas possible. Et donc, il a trouvé un artifice assez remarquable, qui était celui du grand manteau, ce qui fait que, voilà, notre ami Hector prenait toute sa dimension. Et je crois que dans ce questionnement à l'accessoire, à la mise en scène, ça permet aussi, enfin, je pense, de questionner à la fois aussi les enjeux de la peinture de genre et de la critique de la peinture de genre. Je pense que on ne peut la comprendre. On peut comprendre la peinture de genre aujourd'hui et la critique de la peinture de genre telle qu'elle a pu être faite au XIXe siècle qu'en intégrant aussi la photographie, parce que ce sont des images que les critiques voyaient ou du moins entendaient parler, même s'ils ne les voyaient pas. Et ça, je crois que c'est ça qui me semble très important à souligner et qu'on a souvent un peu oublié, nous, les historiens de l'art. Hein, c'est pour ça que je me permets de le dire par rapport à cet élément-là.
De retour de la photographie dans l'appréciation de la peinture.
Dans l'appréciation de la peinture, et non pas simplement dans le côté « il a utilisé la photographie », mais plutôt de se dire que, finalement, ce retour... ce qui peut choquer dans ce retour au genre, c'est aussi la photographie sous-jacente et la manière dont elle apporte d'autres images. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et pour la critique, c'est tout à fait évident. Et notamment pour les différents auteurs que vous avez cités, par exemple, tout à l'heure, mais dans l'ensemble de votre cours, hein, que ce soit Hugo, qui pratique lui-même la photographie, a bien ça à l'esprit. Hein, Baudelaire, qui ne la pratique pas, mais qui la connaît bien aussi. Enfin, voilà, c'est Gautier aussi, évidemment. Quant à Jeannin, hein, qui est un des premiers grands critiques de daguerreotype aussi, c'est ça qui est très intéressant. Et il y a aussi quelque chose que je n'ai pas cité aujourd'hui, mais parce que ça aurait été... C'est le rapport au théâtre. Hein, tout ça se situe aussi par rapport à une mise en scène qui est aussi une mise en scène théâtrale.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup.
Non, merci.